Vous êtes sur le vaisseau rouge avec Helmut Schwartz, Johnny Tiefbeck, Hamza Mektoub, le professeur Schmidby, Jean Nin, Eric Ziguiwi. Tous les mercredis à 21h sur Jet FM. Ok?
Vaisseau rouge numéro 22, acouphène tangentiel. M'est tombé dessus l'impromptu. Celle de Schubert, d'ailleurs, à réécouter. On va voir ça plus tard dans l'émission. Ça, c'est une lettre que j'avais envoyée à un proche. Alors, depuis une semaine, je l'ai écrite il y a le 16 janvier. On est aujourd'hui jour de l'enregistrement, le 10... Le 19 ou le 20. Depuis une semaine, donc depuis le 8 janvier à peu près, je croyais un acouphène. D'abord perméable à l'environnement, le silence pénétrant aux osselets. Le bruit a fondu. Les volumes des paroles ont baissé. Les échos d'un choc qui, 30 ans plus tôt, résonne maintenant le présent, dans mon cerveau. Un bruit sourd et silencieux martèle jusqu'à des agressions vers la paix de l'autre oreille. Absent, agréable et reposant, toutefois, dans la solitude. Ce traumatisme auditif d'une guerre invisible entre son écoute et le quotidien amoindri m'éloigne des violences et incompréhensions desquelles je me replie. Ce morceau à présent, qui va suivre, s'accompagne, après 2 minutes environ, de bruits de guerre parallèles à des sons de scènes tangentes à la réalité. J'espère que vous avez suivi le dernier vaisseau rouge de la semaine dernière, qui se nommait « Les tangentes à travers l'histoire ». Donc là, c'est un morceau de Antepop qui s'appelle « Acouphène tangentiel numéro 2 ». la brume de l'instant, où se perdent les voix, boitant entre les deux côtés, se battent pour la plume. Certaines respirent les vents de café chaud, tandis que d'autres aspirent à une reconnaissance sans toutes ces stalactites. Ce combat dans la grandeur du présent n'aboutit à une seconde finalité que celle de l'oublier. Cette voix intérieure, géante, a révélé la vérité aux paroles hostiles de l'extérieur injurieux, si fort que la lutte entre lumière séparant obscurité et les victimes de la dualité dépose leur auriculaire sur le tragus, l'opercule de l'oreille. On va maintenant écouter l'impromptu, justement. Alors, j'ai mis, c'est la phase B, le numéro 2, mais précisément, je sais pas. Mais c'est de Schubert. Impromptu, excellent. Là, toujours au jour de l'enregistrement, donc comme je dis, on est le 20, ça fait une douzaine de jours plus tard, ce départ de l'oreille qui s'est bouché, quoi, disons. Ouais, bouché. C'est l'impression que j'avais. C'était comme quand on bouche ses oreilles, quoi. Ça me faisait cette impression. Ce bruit sourd, étouffant, pressurisant le tympan, écrit les mille voix. Je répète, ce bruit sourd, étouffant, pressurisant le tympan, écrit les mille voix. De fureur, d'être aux couleurs de la transparence, blessant jusqu'aux maux de tête, dialoguant entre elles. On a entendu dans ce Schubert, ouais, à peu près à 6 minutes 30, Helmut, donc c'est moi, mais bon, je dis que c'est Helmut, parce que bon, Helmut, qui avait complètement oublié l'enregistrement, tenu, déconcentré, par ses échanges intérieurs. 3 minutes avant de lancer le morceau, alors pourquoi, bon, je suis souvent pris par ces trucs intérieurs, mais là quand même, le fait d'oublier un enregistrement, c'est quand même pas mal, donc, parce que 3 minutes avant de lancer le morceau, ça c'est un extraterrestre, il s'est mouché. Il s'est mouché, ouais, assez fort, il s'est mouché, quoi, normal. Et un son de goupille se détachant lui a partiellement permis de retrouver son ouïe. C'est incroyable. Non, on ne peut pas dire que c'est incroyable parce que là, c'est arrivé. Mais tu vois, au bout de 12 jours où je me disais, ouais, c'est bon, j'ai perdu l'oreille, comme je disais au début, un choc, 30 ans plus tard, qui semblait, ok, bon, c'est des explications qui arrivent, qui sont prouvées. Mais bon, moi, ça se trouve, je dis ce matin, dans mes gosses à l'école, moi, je ne retrouverai sûrement jamais mon oreille gauche, quoi. Je ne vous entendrai pas, je vais me faire appareiller. Et là, bon, bah, je suis à la maison, je plie le linge, je sais plus ce que je fais. Et là, paf, je me mouche et pinch, comme une goupille, quoi. Et là, ça y est, mon ouïe est revenue, ouais, wouh, super, ouais, cool. D'écouter Talk, donc Talk, parle, du groupe Music Machine, je crois, un groupe garage des 60s américains, et j'ai passé ce morceau, Talk, parce que après je vais vous passer un morceau de Mark Hollis, qui était le chanteur du groupe cette fois, Talk. Et pendant très très longtemps, je me suis dit, j'avais écouté ce groupe il y a très longtemps, j'avais pas vraiment adhéré, j'avais juste écouté un morceau. Et là, waouh, Spirit of Eden, c'est un album qu'ils ont fait qui est vraiment 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 génial. Donc je vais vous passer un morceau plus tard. Donc je me suis dit, je vais faire le... Bah, c'est pas mal, hein, Talk de Music Machine, et après je vous passe un morceau du groupe Talk, plutôt Talk, you know, baby, qui s'appellera Desire. Mais on en reparlera plus tard. Et le doigt sur l'oreille, justement, sur le tympan. Ça m'a rappelé des récits, des manuscrits que j'ai j'avais noté sur la littéra. Quand j'avais découvert cette substance de la littéra, qui est l'inspiration comburant du temps, qui existe entre les lignes de mots. Renifler une ligne de mots. Ah mince, je sais plus ce que j'ai, l'aphorisme que j'avais trouvé là-dessus. Renifler une ligne de mots, ceci me semble être mon plus beau poème. Et je les ai retrouvés. Donc je vais vous en donner lecture. S-W-D-E-F-Y-I, tiré du 8, P-A, accent grave. Entre parenthèses, le temple des lettres. Alors j'arrêtai d'écrire et lançai ce texte qui fit plouf dans l'eau, et je capuchonnai mon stylo par un geste qui me projetait dans l'ennui de ne plus être sur le pont de mon navire. Malgré ne plus rien noter, roulait une bande magnétique de Super 8 dans mon esprit. Des images du monstre dormant sur une table de granit et marmonnant des fusions de pensées littéraires. Il créait une obsession. Dans le film qui se déroulait à l'intérieur de ma tête, était, aux côtés du monstre, une bouteille à mi-renversée, par laquelle goûtaient des prologues et préfaces d'histoire, dans une mare sans suite. Le monstre était couché sur le sol et semblait apaisé. La pièce dans laquelle il se reposait était éclairée par une lumière qui me paraissait aussi porteuse d'inspiration que l'obscurité peut l'être. Une force se dégageait autour du monstre. En dépit de la peur de recevoir une asphyxie verbale, le simple fait de regarder les images emmenait un temps où il n'était plus nécessaire d'appartenir à son corps. J'assistais à une projection du monstre dormant avec l'immortel, le malheur de la littérature étant celui de n'être personne et du monstre ayant été de n'être personne. Du verbe naître. Pour cette raison, il recherchait son histoire dans les idées toutes faites que les sens ajoutaient aux mots, dans les écritures automatiques et tout le subjectivisme. Il écrit afin de retrouver ses origines, des textes au langage mixte, aux émotions cosmopolites, avec des sentiments enjoués et dépravés de sens, mais ne trouve d'auteur capable de traduire et de comprendre ses pensées. Ainsi, afin d'être compris, il instaure plusieurs techniques rédactionnelles, des sémantiques réactionnelles, et tente de pallier les effets influençables de l'accentuation des phrases. Son travail émerge, mais la mise en œuvre de syntaxe transite par l'inconscience des auteurs. Entre les reliures, articles, phrases dont les significations sont oubliées de leur signification propre. DE145332PO. Significations sont oubliées de leur signification propre. L'inconscience voulait / L chapitre M U apporter. La combustion du temps par la littéra téléporte l'inspiration dans un lieu où rien n'est autre que la constante de l'ego. D'ailleurs, on dirait qu'il m'a choisi. C'est pour cette raison qu'il m'a laissé le voir et partir de son temple. Ma mission, si je l'accepte, quoiqu'il soit imprudent de la refuser, consiste à écrire et laisser le lecteur comprendre ce qu'il veut du texte. Par l'intermédiaire de mots, des idées devront circuler et évoquer une histoire au lecteur. Ce projet est alléchant. Le monstre a déjà rédigé quelques feuilles avec des noms, se répétant à l'intérieur de groupes de mots, rythmant une contemplation et bouleversant le langage commun. Le monstre orchestre dans ses écrits une relation permettant à chaque mot de respirer son individualité au sein de ses différents sens. Alors, voici un extrait d'un des rapports du monstre à présent. Une destination déstructurée, où l'éternel des abîmes suinte une anarchie contre nature, interpose rationalisme et réalité. Les explorateurs de philosophie fuient et désirent fusionner avec l'ombre du feu de la caverne. Leurs aberrations de conscience expliquent tout et pour rien au monde, je ne m'exorciserai de toutes ces âmes qui me possèdent. Selon les rapports du royaume du personne rédigés par la créature de la littérature, je vais proposer une biographie qui s'imbrique dans la traduction des vers en italique. Le monstre a différentes apparences. Lorsqu'il est gros, vert et caillé, avec des crocs et concentré, il dévore un livre ou dort. Dans sa tenue de chimère, au visage d'homme et de plume, il se déplace et communique. La gestation intramoléculaire d'une invasion prédestinée à d'arrogantes visions souscrit les voyages et codifie les douleurs et traumatismes dans un langage intersidéral. Fin de citation. Il arrive au monstre de se déchaîner verbalement, et tout comme les poètes, il se défend du manque de proportion entre le moyen et le résultat. Il avale la littérature qui descend de sa gueule jusqu'à son ventre par un funicule. Les mots le nourrissent pendant que les phrases le courtisent, alors qu'il ne peut se reproduire, car le monstre chimère est aménoré d'extase. La compréhension de ces vers en italique me demande une grosse quantité de littéra afin de comprendre ses pensées. Que jamais ne s'exècre de mots dans un langage autre que cunéiforme, tandis que j'erre dans un flocon génital. Je m'assois, éradique le mal et longe. C'était une autre citation. Les lignes qu'il écrit ont le sens qu'on leur donne et sont belles. Chaque mot est chaque seconde et je me brûle à rapprocher leur signification. Le monstre est certainement très seul dans le royaume du personne. J'aime, en revanche, lui tenir compagnie. Encore faut-il qu'il accepte ma présence. Le mieux est quand il parle en dormant. Je cite. Sa voix pareille au bruit lointain qui meurt dans l'étendue. Lamartine, hymne au Christ. Comme d'avoir aimé un mort ou une morte, dans les glaciers de la mémoire. Et l'on n'a plus besoin de personne. Apollinaire. Alcool. Qu'une réflexion propice à la mélancolie. Coleridge. Crainte dans la solitude. Il est imprégné de la personnalité des auteurs qu'il a pu manger à travers leurs œuvres et plus je le lis, ce qu'il a écrit, plus je pense à autre chose. Ce qu'il écrit est tellement beau que je m'écarte du fil de la lecture et me fais cobaye de son projet. La compréhension de ses textes est illusoire. On dirait qu'il connaît son lecteur, qu'il sait où il veut aller, où il veut en venir. Le monstre utilise des mots qui, selon les périodes de lecture, changent de définition. Je les interprète différemment, comme si je changeais de place. Ces textes font les mêmes effets que la littéra. Chaque mot devient un décryptage de l'inconnu. exhiber les choses à un imperturbable premier plan. Mallarmé, le mystère dans les lettres. Est une phrase qu'il répète sans cesse. Exhiber les choses à un imperturbable premier plan. Il entend dans cette phrase, au moins je le pense, que le langage aurait une base communicative, mais ces verbes pourraient, voudraient ou se devraient de transporter les mots pour aller ailleurs. Exhiber les choses à un imperturbable premier plan. Serait d'oublier les sens véritables des mots. Donc la façon de lire un nom commun reposerait sur celle d'une phrase, puis d'un chapitre, pour finalement aboutir à l'interprétation d'un tout. Le monstre de la littérature cherche par une syntaxe un nouveau genre à entrer en contact. Exhiber les choses à un imperturbable premier plan. En camelot, activé par la pression de l'instant. Dans ce cas, pourquoi, indûment, sauf pour étaler la banalité. Plutôt que tendre le nuage précieux flottant sur l'intime gouffre de chaque pensée. Je ne cesse de relire le mystère des lettres de Mallarmé, et j'arrive à penser que les monstres l'auraient mangé. En rongeant les restes de syllabes coincées entre ses dents, le monstre avait dû trouver un réconfort de trouver un auteur qui avait les mêmes pensées que lui. À propos du, entre guillemets, je cite, « langage présenté avec les mots, dans un sens même indifférent ». Né le 18 février, Stéphane Mallarmé est du signe astrologique du poisson, signe de l'éternel recommencement. Le poisson, nageant entre le signe zodiacal et les bouteilles jetées à la mer, symbolise l'ascension spirituelle où prendra naissance une nouvelle destinée. Sur des plages de solitude s'ouvre l'infini des océans, plein déjà de renouveau, d'ouverture sur mille lectures. Les moindres silences apprennent au lyrisme des phrases qui amènent à suggérer la présence d'un grand tout. Ces partitions seraient l'espace du temps. Ces notes des mots, ces clés de sol des fragments de littéra. Et pendant que l'instant foudroierait les concepts de l'œuvre, le temps présent me rattraperait. Je suis assis sur le banc d'une rue. À gauche, un bus arrive. Et à droite, à une trentaine de mètres, est la chimère au visage d'homme, son talon accolé au réverbère. Son manteau, dans le col de chemisette, a regardé au loin avec un paquet de littéra sous le bras. Il brille autant que ses phrases. Je donnerai tout pour vieillir à ses côtés et lui obéir. C'est une raison pour devenir fou. À moins de devenir un mot, et malgré la conjonction d'influences cosmiques, s'épand sur les sols des nappes délictueuses. Des liquides visqueux, organiques, étendus sur le sol, incarnent des idées de l'énigme. Ni la foi, ni les facilités n'auront raison du dessein de soi. C'était encore un extrait de rapport. Seigneur de la littérature. Le monstre est un prince apparaissant dans certains livres de génie, caché entre deux lignes, respirant sur celle se divisant entre la fatigue et l'ivresse, qui est la maladie magnétique de tourner les pages, même lorsque le cerveau n'est plus connecté à l'histoire. La maladie de l'ivresse a été mise en page par les groupes nominaux qui ont enfanté le monstre. Soit puisse-t-il être le fruit de la copulation verbale de la dispersion fécondatrice, telle celle du poisson, et du silence illimité et indéterminé des lettres. Elle se transmet, ou plutôt se fait, la correspondance entre les mots et le lecteur, selon les états d'âme de moments précis. Le monstre a vu le jour dans les entrailles du labyrinthe du grand tout, là où les murs sont en écorce de voyelles et de consonnes, où les sages-femmes sont des syllabes et donnent naissance aux langues. Dans ce labyrinthe, milieu de nulle part et centre du grand tout, on y trouve une fascination de la solitude. celle dont il est besoin pour créer une œuvre. Les couloirs se font des traversées de rêves, où se croisent des expressions qui ont vu ou revu les mêmes mots, sur des passages qui peuvent durer sans ne s'arrêter, alors que des histoires cherchent à s'échapper. Les morceaux de phrases grattés en italique dans les textes présents sont des passages recopiés à partir des carnets de voyage du monstre, ou lors de ses périples dans le labyrinthe du grand tout. Il peut transmettre différentes cadences aux façons de raconter, transmettre une idée subliminale par des répétitions de mots et redonner le temps d'une lecture, son âme au cosmos, pour marcher dans les landes où tout le monde se trouve. Là où le vent ne souffle aucune direction, où l'absence d'apesanteur est une raison pour les esprits de penser et de maintenir le silence, là est un lieu où le labyrinthe du grand tout est une échappatoire de la réalité. Des esprits abondent dans ces landes appartenant à tout le monde et personne. Le monstre de la littérature serait le fantôme du concret, l'abstrait d'une troisième réalité. La première réalité serait définie par le mot « maintenant ». Et tout ce qu'il convient de lui rattacher. La seconde serait le rapport entretenu avec soi-même, et la troisième serait ce qui nous rattache à tout le reste. La morphologie d'un texte se bâtit sur l'humanité et la perception de l'auteur. Le monstre en vient à régir tout phénomène mêlant les contacts à la syntaxe. L'omniscience humaine peut se définir sur un résumé, un livre, un volume, tandis que l'omniscience du monstre de la littérature demeure indéfinie et omniprésente.
Oh,
après ce morceau Desire du groupe Talk Talk, qui est de l'album de 86.
Oh yes, I think. I don't know. Fuck you. Yes, baby. Yes, I got it. Alors attends, il est de...
Ouais, on va dire 86. De toute façon, c'est pas très grave. Si vous voulez savoir, c'est comment il s'appelle ? Spirit of Eden. Donc, c'est le numéro 3 de l'album. Bon, vraiment, cet album est sensationnel. Bon, après, ça dépend de l'âge qu'on a, etc., bien sûr. Mais il arrive à. Il est très très bon. Dans un bouquin là, que j'ai acheté avant, bon, d'occasion, vraiment, il disait que il y avait vraiment, il avait beaucoup influencé la scène post-punk, enfin je sais plus quoi. Il avait beaucoup influencé la musique en général, et c'est vrai qu'en écoutant, je repensais à Jeff Buckley, et lui c'est 10 ans plus tard qu'il sort Grace, tu sais. Et Radiohead, ça j'ai pas trouvé parce que Radiohead je connais mais pas plus que ça en tout cas. C'est ce qui est écrit. Bon, je sais pas, c'est comme ça. Donc on peut apercevoir, vraiment, en écoutant cet album, on peut apercevoir le secret qui vient à notre conscience, tel celui de la délivrance finale. Qui, comme un cri passionné du désir de la réalité avoué à la conscience. Le désir de savoir pourquoi et pas autrement. Le secret complice de la conscience consacre la transmigration des âmes à la justice éternelle de l'inégalité des conditions du monde civilisé et des esprits mutilés qu'il affine. Par la mémoire de nos âmes, on a ce qu'on mérite. Et ça tombe sur nous, qu'on le veuille ou non. En gros, c'est ça. Je dis ça parce qu'en même temps, j'en profite pour dire des lectures que j'ai faites. Et je partage complètement ça depuis des années maintenant. On a ce qu'on mérite, quoi. Et ça, c'est déjà dans la vie qu'on mène actuellement. Bon, tu fais quelque chose de mal ou de bien, totalement en échange, je pourrais dire, du phénomène inouï. Il y aura une récompense ou un coup de malchance, quoi, si on peut dire. Et c'est ce secret donc qu'il faut vraiment en être très, très... au courant de ça. C'est réel. Et ça, c'est pas des religions, comme je dis tout le temps, c'est pas chrétienne, catholique, puisque ça a été réutilisé dans le Nouveau Testament. C'est aussi dans les pré-socratiques. J'ai lu ça chez les pré-socratiques. Là, je vous parle de la transmigration des âmes et des esprits mutilés. Là, il y a vraiment une différence à faire et qui existe, qui est réelle entre les âmes. On a une âme, l'âme qui est la base, on pourrait dire, et c'est l'âme qui transmigre, qui passe d'un corps à l'autre lorsqu'on meurt, quoi, tu vois. Et l'esprit, par contre, lui, c'est un nouveau qui revient à chaque fois. Mais qui, comme je viens de vous le dire, les transmigrations, enfin, tu as l'esprit que tu mérites, en fait. La vie précédente qu'on a pu avoir, eh bien, elle mérite l'esprit qu'on a aujourd'hui. Donc, je vais continuer par le deuxième chapitre de la littéra, qui s'appelle « L'aube du monstre de la littérature ». Et à ça suivra un morceau en solo, cette fois, de Mark Hollis, de son album et son unique album solo de 1998. L'aube du monstre de la littérature. Dans une bibliothèque, à la recherche des origines du monstre, et parmi mes rêves éparpillés de lectures fuyant entre les chapitres de différents auteurs, la jeunesse du monstre s'est profilée. Elle errait dans un livre fermé. Depuis, on aurait dit un millier d'années. avec son odeur de renfermé. Le nom de son auteur fut effacé par la moiteur du climat, suinté par la notice et la pâle chaleur du désert entortillé de sécheresse et de tourmente. Il parcourait tout de même les plaines de sable, les dunes et leurs tempêtes. Le monstre montait un chameau. Dans le froid d'une nuit sans lune, il tournait les pages d'un livre. La conquête des mots était le seul moyen pour lui de respirer. Elle était une raison pour lui d'accepter la sécheresse des journées interminables. Et alors que je cherchais de la littéra entre les reliures afin de le percevoir plus intensément dans la traversée du désert, une ligne de mots a érigé le relief du début de son histoire. L'horizon, qui est très fort, ne nous a pas permis de l'apercevoir plus tôt. Charles Frouin, chirurgien de la baleine, du baleinier, l'Espadon. Dès que je l'aperçus, au sein du grand désert, je me mis à crier. Ô toi, qui que tu sois, ombre ou, sinon, vivant, prends pitié de ma peine. Dante, l'enfer, chant numéro 1. Il était magnifiquement sculpté dans son corps de chimère, dressé comme un diable, fixant le lointain au haut d'une dune. Une brise soufflait, accompagnait ses gestes d'éclat d'élégance, et la beauté était si jalouse qu'elle réveilla la nature, qui effaça sa silhouette dans le creux d'une tempête. La chimère et son omniscience disparurent, et je redevins aussi seul que sans crayon. J'écrivis des mots, les superposa les uns aux autres et parachevai un fourbi dénué de sens. Pourtant mon cœur s'envola. Le texte était doté d'une syntaxe qui me fit réfléchir à deux fois. Comment avais-je pu écrire ceci ? J'étais assis à une table du premier étage de la bibliothèque. Autour de moi, des personnes du troisième âge et étudiants lisaient et étaient vraisemblablement scotchés au sol. Ils devaient certainement ignorer l'existence de la littéra. Il me fallait une dose de littéra pour m'enfuir de la réalité et écrire la suite de la traversée du désert du monstre. Je me levai, croisa un membre du personnel en partant dans le secteur R. « Vous semblez connaître le monstre, » me dit-il. « Comment ? » répondis-je bêtement. « Vous le connaissez, ça se voit, c'est écrit dans vos yeux. Le connaissez-vous aussi ? » « Laissez-moi seul, » dit-il, « et allez-vous pendre. » Ernest Hemingway, mort dans l'après-midi. Répondit-il sur un ton tragique, comme s'il jouait une pièce de théâtre. J'emboîtais le pas en l'ignorant et dépassais une charrette immobile couverte de livres avec la tête pensive, et le névrosé me coupa de nouveau la route. Je ne détournais pas le regard car je ne pensais qu'à la littéra et son omniscience. Un manque de création traversait mes veines. Il me fallait une dose de littéra. Je partis chercher des lignes de mots et rencontra l'escadron de Shakespeare sur une étagère. Les livres rangés, dossier contre dossier, sur des autoroutes de mots, déjà reniflés par des auteurs qui les couchaient ensuite sur le papier. J'empruntai leurs histoires érudites et les paroles du monstre se firent littéra. Un extrait de rapport maintenant. Apparut un oasis dans la soif de continuer et s'évader à travers les pages, sans être lassé de lectures qui substituaient les méandres cognitifs. S'élaguait la flore de mes pensées. Les feuilles se tournaient dans des rêves d'entendre les vents murmurer dedans. Fin de citation, fin de rapport. Selon le monstre, la poésie n'est pas qu'une succession de vers, mais un horizon où est éclairée la lumière. Puis, long silence, long tout court, ou si long que peut-être plus rien, et puis à nouveau, depuis ses tréfonds, à peine un murmure. Oh, qu'il serait, et ici, le mot perdu que de finir là ou jamais avant. Samuel Beckett, soubresaut. Les définitions disparaissent. Et une dose de littéra fait entrer la lecture dans l'ivresse.
L'ivresse s'écrit L-I-V-R-E-2-S-E, sans le L apostrophe. Alors. Cette maladie débute lors de lecture par des excès d'interposition de thèse et d'antithèse. Elle perd le lecteur dans sa propre conscience. Le lecteur devenu malade n'a donc plus rien, n'a donc plus aucun désir de comprendre et tourne les pages sans se soucier du sens du récit. Je rajouterai que le nombre des emplois possibles d'un mot par un individu est plus important que le nombre des mots dont il peut disposer. Paul Valéry confère Hugo et Racine dans Introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Le monstre de la littérature montre à présent une nouvelle façon de lire. Il est très attaché à l'épanouissement personnel et à la création que le monde peut apporter. Le langage s'est progressivement éteint de lui-même. Le monstre de la littérature expose une méthode de lecture établie entre les lignes sur une compréhension de la continuité des sons. Les mots ont une définition. Les utiliser comme la peinture ou la musique, avec les yeux ou les oreilles, ne convient pas à exprimer leur principe de communication. Leur sens évoque une intuition et leur son provoque une interprétation. Le monstre de la littérature entreprend d'effacer leur sens, que la littéra devienne accessible à tous. Extrait de rapport à présent. L'écriture est une machine à construire le langage et s'est faite dépasser par la banalisation de l'individualisation industrielle pour arriver au niveau de ce moteur du monde. L'écriture doit faire des livres où se répètent les mots pour devenir son carburant. Elle doit ponctuer ses récits de termes aux multiples définitions. Fin de rapport. Comme souligna le monstre de la littérature dans le temple des lettres, les répétitions bouleversent le langage. Une meute de mots au sens linéaire sert la syntaxe pendant que certains mots définissent la position du lecteur dans les atmosphères. Pour que le théorème de répétition raconte une histoire, la suite des mots doit transpirer un sens. Les coutumes se bouleversent, une révolution progresse, et le monstre de la littérature crée de la littéra parmi la relativité des mots et les narrations qui leur sont données. La littéra, la combustion du temps par les influences de l'instant, est une pensée proche de l'acte. Et à peine nous la vivons que nous la sentons se séparer de tout langage conventionnel. Le monstre de la littérature réside dans la narration. Samuel Beckett, dans sa biographie de Marcel Proust, fait un tour dans le temple des lettres du monstre. Beckett marche dans la solitude. Des mots qu'il consacre à Proust. Ils l'étudient, car ils sont tous deux livrés à eux-mêmes et rédacteurs de leur vie dans deux des suites du temple. Après des écoutes phonétiques de locution, le monstre m'a donné rendez-vous dans une gare. J'étais ému et en transe, avec les poils hérissés. Je quittais mes occupations et avançais vers l'inconnu tout en sachant où je me dirigeais. Une gare, un carrefour de la solitude. Je partis donc sans attendre. Après avoir longé les trottoirs, une porte vitrée s'ouvrit automatiquement. Il n'y avait pas d'escalator, mais des marches avec des rampes de bois ciré menant à un étage sur pilotis. La lumière électrique couleur d'un épais soleil conduisait jusqu'au train à destination d'Aurore et Crépuscule. À l'étage superposé du hall de gare, se situait les points de vente de tickets et de crédits de communication pour la dizaine de téléphones fixés sur une longue table et séparés par des vitrages doublés. Je devais retrouver le monstre accroché à un combiné dans un de ces enclos avec un chapeau noir, un costume complet marron foncé et un pardessus beige. Je commençais à monter les marches l'une après l'autre en déroulant le film de ma vie. Comme si la fin approchait et soudain, commença à sonner un téléphone. Mon cœur se mit à battre. Les muscles de mes jambes se compressèrent pour se ruer décrocher, si pressé de pouvoir lui parler qu'il me sembla que le combiné vint à moi, entre mon oreille et mes lèvres. Allô ? En ce moment, nous sentons que les mots nous manquent. Et il se trouve qu'il n'y a point de raison qu'il nous réponde, qu'il nous remplace.
Leurs objectifs sont de nous faire repasser au voisinage d'états déjà éprouvés, de régulariser ou d'instituer la répétition, et voici que nous épousons maintenant cette vie mentale qui ne se répète jamais. Oh, qui êtes-vous ? Lui répondis-je instinctivement, comme un idiot. Il me répond. L'arborescence printanière de l'instantanéité du langage qui dessine des feuilles sur les arbres et des pétales sur les fleurs. Leur senteur hume le secret le plus enfoui des humeurs. Et il raccrocha. Il m'aura fallu une nuit pour comprendre le monstre qui parlait à une réception différente. Il quitta le langage commun en évitant la réception physique, oreille, et calibra son langage sur mon inconscient, afin que je sois le seul en mesure de comprendre. La vertu de l'écrit est d'être en veille lors de ses lectures en diagonale. Son pouvoir et ses valeurs absolues apparaissent dans sa poésie divine, pour guérir de tous les maux. Douce langue du cœur, Alfred de Musset, Rolla. Le monstre de la littérature peut guérir par les mots. Donc il a été question de l'escadron de Shakespeare dans ce chapitre, qui n'est autre bien sûr que celui de William Seward Burroughs, inspiré du moins, et Samuel Beckett dans sa biographie de Marcel Proust, qui est Proust de Samuel Beckett. Et je vous ai aussi parlé de l'ivresse. L'ivresse, L-I-V-R-E-2-S-E, qui à une certaine époque, je ne sais pas, j'ignore maintenant, était un bar à Nantes. Et c'est ça, c'est ce bar qui m'a inspiré. Donc on a pu écouter The Gift par Mark Hollis de son album solo de 1998, comme je vous disais, qui était un membre de Tal Talk, le chanteur, et qui composait beaucoup. Et justement, dans le livre dont je vous parlais sur Mark Hollis, écrit par... Ne quittez pas. Où est-ce que j'ai mis ? Oui, là. Écrit par Monsieur Frédéric Rapilly, Mark Hollis ou l'art de l'effacement. Il est dit que bon, alors, ils mettent pas de quoi il meurt vraiment, mais bon, il arrête son groupe Tal Talk dans les années 90, enfin dans les années 80-90, et en 98, il revient avec un album solo et il meurt. En 2019. Et il y a eu gros silence. On ne sait pas ce qu'il a fait. Et à la fin de son livre, il est écrit « Oui, alors, est-ce qu'il a fait des enregistrements ou non ? Personne ne le sait. C'est la quête du Graal, machin, je ne sais plus comment il appelle ça. » Mais donc, on se renseigne, on regarde sur le juge de paix et on voit que Mark Hollis est mort d'un cancer du pancréas. Et... comme il arrive souvent, pas forcément à chaque fois, mais le pancréas, comme ça, c'est un excès de tabac, généralement, ou d'alcool, ou les deux. Donc, où tu te dis, oh ouais, il a fait de la musique, le mec, c'est un ange, tu vois, il était... Ou alors, il a bu comme un trou pendant 20 ans, et il a fumé des clopes pendant 20 ans. On ne sait pas. Moi, je ça fait très peu de temps que je découvre, mais bon, voilà. C'est pour ça un petit peu aussi que je vous passe ce morceau de Gift. Donc, c'est le don. C'est vraiment chouette. Après, j'ai réécouté des trucs. Mais ouais, c'est vrai. Il a, en quelque sorte, dans les années 80, il a pu initier... Enfin, pas initier, mais ouais, Radiohead, quoi. Ah ouais, à fond. Parce que, ouais, Radiohead, j'ai dit que je connaissais pas, mais je connais un peu quand même, quoi. Et toute l'écriture, si on revient à la littéra, et à Mark Hollis aussi, parce que lui, il était vraiment, vraiment très, très fort. Toute l'écriture est une perpétuelle résurrection. L'écriture aussi de musique. Toute l'écriture est une perpétuelle résurrection. De sa mémoire à ses oublis spasmodiques. Donc, sa mémoire hyper mnémonique, donc super mémoire, mais à des oublis séquentiels, spasmodiques, en spasme. Et là, je continue. L'écrire, le fait d'écrire, l'écrire est un autre. Une déportation rare vers une attitude mystérieuse. L'écrire, encore une fois, est métaphysique. Une apparition au sein d'une spirale qui s'efface pour renaître ailleurs, après une destruction de son hôte. Donc dans ces moments rares, où la plume vient à nous, je vous ai dit, mais à un moment, là, dans ce que je vous ai lu, mais qui ai-je vraiment écrit ça ? C'est, on est une force, prends ton stylo, et te fait écrire quelque chose. Et donc, te fait sortir, tu vis quelque chose de lors de l'écriture de fantastique, c'est beau, quoi. Et en même temps, tu détruis pas, tu anéantis pas non plus, mais bah, c'est un temps qui est passé, qui reste beau. Donc c'est une destruction créatrice, une évolution créatrice. Donc nous venons d'entendre How to Disappear Completely par Radiohead de l'album Kid A, Kid A de 2000. Ou bien comment disparaître complètement. Je trouvais que ce morceau vient poser pas mal de questions. Le nom de ce morceau, ça vient faire en écho bien sûr à Talk Talk de Mark Hollis dont je vous ai parlé juste avant. Et avec la littéra. La littéra, je vais m'arrêter pour la lecture là, pour cette émission. Je continuerai la semaine prochaine. Donc, comment disparaître complètement Radiohead? Ou bien, mais avant, tu te dis, mais, les questions que ça t'emmène, comment rendre intelligent le fait d'être avant apparent dans une parcelle de la société? Parce que pour disparaître complètement, il faut déjà être existant ou se sentir important déjà pour penser à disparaître complètement. Ou alors, ou au contraire, ne pas se sentir important. Mais là, après, disparaître complètement quand tu n'existes pas, c'est moins dur déjà. Donc, être apparent dans l'existence de l'autre entraîne-t-il un besoin, une preuve? Alors, un besoin d'exister quand tu es apparent dans l'existence de l'autre, tu vois, ou une preuve, ça te donne la preuve d'exister quand tu es présent pour l'autre, ou une simulation. Qu'est-ce que c'est, au juste? Est-ce que t'as besoin d'exister pour l'autre? Est-ce que t'es une preuve d'exister pour l'autre et pour toi-même? Ou c'est simplement une simulation? Une simulation d'appartenance, tout bêtement. Simulation d'appartenance, une preuve d'appartenir à quelque chose, une entité, ou un besoin d'appartenir. Bon. La personne ou l'accusé va-t-elle accepter la subjectivité de son incarnation? Là, on va encore un peu plus profond. Donc la personne ou l'accusé, c'est-à-dire qui que ce soit, accepter l'accusé dans la société, à un moment ou à un autre, accusé par quelque chose, quoi que ce soit, à tous les temps du temps. Va-t-elle accepter la subjectivité de son incarnation? C'est-à-dire, va-t-elle accepter pourquoi ça lui tombe dessus, comme je disais plus tôt, qu'elle le veuille ou non? Sans forcément après aller dans cette explication, le secret, comme je vous disais, des réincarnations qui font dans lequel le bien et le mal peuvent interagir, est-ce que la personne va accepter ça? Va accepter le secret, va essayer de connaître le secret. Bon. Comment disparaître complètement? Emmène premièrement le fait de l'existence totale et pleine. Comme je disais tout de suite là. Disparaître pour une strate de l'univers, tu te dis je veux disparaître. Mais déjà, il faut savoir que le mec existe, quoi. Tu vois, un mec que tu connais pas, il se pose cette question. Tu vois, on va prendre mon exemple là, l'exemple que je vous donne. Je me dis, je veux disparaître. Mais avant, ça veut dire que t'existes, quoi. Ça veut dire que t'es, pour beaucoup, t'es. Tu crois que t'es important, tu crois qu'ils ont besoin de toi, que t'es une preuve, t'es une simulation. Tu vois, ça va jusque-là, je pense, pour aller dans mon développement, tu vois, on va dire ça, quoi. Donc, il faut... le mec, il doit se croire vachement important, quoi. Donc, Tom York, par exemple, vu que c'est lui qui a écrit le morceau, peut-être, je connais pas plus ce personnage, mais... Donc, disparaître, déjà de ça... Bon, en soi, disparaître, c'est pas compliqué. Hein. On s'en fout, quoi. Ça, ils le disent pas. J'ai pas fait attention aux paroles de la chanson, mais c'est pas important. C'est le titre qui m'intéresse. Donc, disparaître pour une strate de l'univers, comme une étoile qui perdrait sa lumière dans la nuit.
En fait, ça se verrait, et ça se remarquerait que pour ceux qui savent que l'étoile existe ou existait. Et surtout, où elle était dans le ciel. How to disappear completely, eh ben, je vais te le dire. Déjà, il faut exister. Et puis, il faut exister pour le monde entier. Tu vois, je me pose souvent la question. Les Beatles, on va revenir aux années 60, tu vois. Tout le monde entier occidental connaissait les Beatles, quasiment. Mais pas le monde entier, quoi. Enfin, c'est un exemple que je prends, mais bon, Radiohead, la même chose, quoi. Tout le monde ne connaît pas Radiohead. Aussi, non. En plus, c'est transgénérationnel. C'est pas possible de disparaître complètement. On n'existe déjà pas complètement. Comment tu veux disparaître complètement? Voilà. Et puis par rapport à la littéra dont je vous disais, le fait de l'écrire, elle apostrophe et le verbe écrire, l'écrire, ça disparaîtra pas complètement. Pour que ça disparaisse complètement, l'écrire, le fait d'écrire, le fait de se donner, ça. Ça, c'est la question. Maintenant, pour terminer l'émission, on va écouter un morceau de Max Richter pour rester un peu dans le mood de Talk Talk et de Radiohead. Je vais donc vous passer le morceau A Color Field, un champ de couleurs, de son album, extrait de son album In a Landscape. Et tout l'album, on peut à plusieurs reprises voir des sonorités un petit peu proches de Radiohead et de Talk Talk, incidemment. Voilà, on écoute A Color Field par Max Richter. De son album In a Landscape. Donc avant ce morceau de Richter, de Max Richter, Color Fields, je vous parlais de ce truc de besoin, de preuve, de simulation par rapport à l'existence. Donc on peut éprouver ou non. Et je vous ai dit, bah tiens, je vous donne un exemple, et puis après je ne l'ai pas fait. Mais là, j'ai creusé un peu. Lorsque j'animais mes quotidiennes, c'était un moment, 5 années très très importantes pour moi, les 5 dernières là, les auditeurs,
de mes shows, radio shows, you know, était un besoin pour moi pour aller plus loin. J'y pensais 24 heures sur 24. Je pensais à mes émissions pour mes auditeurs et aussi pour ma quête. Les émissions étaient donc la preuve que j'existais. À mes yeux, du moins. C'est pendant tout ça, au bout de cinq années, le simulacre d'appartenance m'a sauté aux yeux. Alors, simulacre, je vais revenir dessus à la fin, plus tard, dans quelques secondes. Après donc cinq années, comme je vous dis, tous les jours, à raison de 365 jours par an, il n'y avait pas de vacances. C'était tous les jours, enfin, j'enregistrais en avance, mais tous les jours, il y en avait une, quoi. Qui pouvait durer entre 10, enfin, c'était souvent 20 et 1 heure, quoi. Voire 2. Enfin, c'est pas arrivé souvent 2, mais bref. Ouais. Soit près de 1500 émissions que j'ai stoppées pour revenir à une hebdomadaire actuellement. Donc, c'est le vaisseau rouge. Pendant 5 années, j'ai dirigé la barge russe qui était tous les jours. Hein. Et comprendre donc que je n'avais plus besoin de m'acharner, tant pour la quête que je partage, que la preuve d'exister, qui, elle, cette preuve, était au-delà du reste, en fait. J'ai fait un remise à zéro, quoi. Encore m'avait-il fallu accomplir tout ce que j'ai accompli. Donc aujourd'hui, pour penser de cette manière, il a fallu que je fasse les 5 années de travail, de vraiment sur moi, pour ma quête, sur les autres, tout autour de moi, et c'est une quête que je livrais dans mes émissions de radio. Donc elle était aussi importante pour ce que j'avais l'impression de livrer que pour moi-même, bien sûr. Et même pour, ouais, au-delà de même pour moi, c'était comme je vous dis, un besoin, la preuve que j'existais. Mais maintenant, comme je dis, j'ai plus besoin forcément de cette preuve d'existence, vu que je sais que j'existe. Et j'ai plus besoin de ça forcément, même si je continue mes hebdomadaires, parce que j'aime ça. Or, le simulacre de la société, donc le simulacre, c'est le fait d'exister pour l'autre, les apparences, tu vois les exemples des gamins au collège, tu vois, ah ouais, t'as vu, j'ai des super godasses, hein, t'as vu des godasses, là. Ouais, bon voilà, par exemple, bon, c'est un exemple comme beaucoup d'autres, pour rigoler en même temps. Et donc nulle simulation n'est présente. Donc oui, nulle simulation n'est présente dans mes shows. Je ne simule jamais. Je n'ai jamais simulé. Je sais qu'il ne faut dire jamais, mais pour l'instant, et j'espère que ça continuera jusqu'à la fin de ma vie. Or, le simulacre de la société est bien présent pour y exister. Donc, avant d'être interrompu par le téléphone. Or, le simulacre de la société est bien présent pour y exister. C'est-à-dire que c'est plus fort que nous. Si tu veux vivre dans la société, t'es obligé d'appartenir au simulacre, t'es obligé de donner des apparences, parce que, pareil, même si t'as pas envie de donner des apparences, tu donnes l'apparence du mec qui veut pas donner d'apparence. Et tout ça, c'est relatif. Mais, on se bouffe la queue, quoi. C'est toujours... Parce qu'on appartient à un cycle qui... Le cycle primaire, comme j'avais dit la semaine dernière. Merci. In Amsterdam, there was a maid, my well, so what I said. In Amsterdam, there was a maid, and she was mistress of a trade. I go no more a-roving with you, fair maid. A-roving, a-roving, tense a-roving, he's been my heroine. I go... Vite, Johnny, arrête de chanter! Y a l'émission qui va commencer ou qui se termine, le vaisseau rouge. Vite, 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 faut se barrer. Helmut, professeur, vite, 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 ramenez-vous. Jean-Nil, dépêche-toi. Eric, allez, on y va, on se casse. Allez, la barre, vite, on monte sur la barre juste. Go! Hamza, tous les mercredis à 21h. Ouais!